Frères et sœurs, à peine Jésus a-t-il appelé ses apôtres à le suivre, qu'il leur donne un premier enseignement assez solennel en forme de programme. Les béatitudes tiennent lieu de préambule et elles sont aussitôt développées par les appels successifs que nous venons d'entendre. Comme je le suggérais tout à l'heure, parmi ces appels, une phrase, sans doute, se distingue des autres par son ampleur inédite et redoutable. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Jésus se rend-il vraiment compte de ce qu'il demande à ses amis ? La miséricorde ne constitue-t-elle pas l'attribut exclusif de Dieu le Père, à la hauteur duquel nous ne parviendrons jamais à nous hisser? Que peut-il donc vouloir ici nous dire? Dans l'Évangile, nous le voyons, les apôtres écoutent leur maître avec attention, ils l'écoutent longuement, en même temps que la foule qui a commencé à les rejoindre et qui pressent déjà une nouveauté prometteuse. D'ailleurs, c'est un centurion de l'armée romaine qui manifestera le premier sa confiance en Jésus, cet homme qui parle avec autorité et non pas comme les scribes. Aujourd'hui, à notre tour, nous écoutons Jésus et nous avons le désir de le comprendre pour pouvoir le suivre. En premier lieu, la parole de Jésus ne surgit pas soudainement à la manière d'un météorite ou d'un feu de paille. Elle se situe à la croisée des chemins, ayant été longuement préparée et attendue par le peuple de la première alliance. Le récit du premier livre de Samuel nous en offre aujourd'hui une manifestation assez éclairante. Le prophète décrit en effet un épisode marquant de la douloureuse confrontation qui opposa Saül au jeune David. Ce dernier, quand il était jeune encore donc, fut appelé auprès du roi pour l'apaiser, pour lui apporter quelque chose comme la douceur grâce à l'harmonie de ses chants. Un peu plus tard, il manifesta sa bravoure en remportant la victoire inespérée face au géant Goliath. Et ce jour-là, il devint le héros du peuple d'Israël. Ce jour-là aussi, il commença à rendre jaloux le roi Saül, qui se laissa peu à peu ronger par la colère. Il désira traquer David, et il le fit en tout lieu, afin de le mettre à mort. Ainsi nous le voyons déployer des trésors de ruse et de grands moyens humains en faveur de ce projet funeste. Et voilà que David, très conscient de la menace qui pèse sur lui, a l'occasion de se venger. Le roi se tient là, devant lui, endormi et vulnérable. Il serait facile à cet instant de le neutraliser en le blessant sévèrement et même en le tuant. La simple logique humaine de la protection ou de la défense aurait dû conduire à un tel choix. Et pourtant, David préfère agir d'une autre manière. Il s'empare simplement des effets personnels que le roi avait déposés à ses côtés et il s'éloigne, lui laissant la vie sauve. Face à l'hypothèse du mal, David n'a pas réagi par un mal équivalent. Ce n'est pas encore tout à fait la miséricorde dont Jésus va nous parler, mais c'est déjà une attitude empreinte de miséricorde. Nous pouvons donc accueillir le témoignage que David a rendu comme un jalon par lequel Dieu nous a mystérieusement préparés à découvrir la miséricorde. Avant d'être un mot ou une idée, avant d'être un concept ou une théorie, la miséricorde est d'abord une expérience. C'est la capacité de résister face à la tentation du mal. C'est la conscience de notre propre misère qui trouve dans le cœur de Dieu son véritable refuge. C'est encore la joie de scruter la volonté de Dieu et de la mettre en pratique. La miséricorde demeure ainsi plutôt abstraite, en dehors de la rencontre avec Dieu et de la relation entretenue avec lui. Les apôtres ont pu accueillir les paroles exigeantes de Jésus, car ils ont compris qu'elles étaient prononcées par celui qui est la miséricorde en personne et en acte. Jésus ne se contente pas de nous appeler à être miséricordieux, mais il indique le chemin qui mène à la miséricorde. Et pour cela, il décrit des situations concrètes. L'amour des ennemis, le refus de la violence physique ou verbale, la joie de donner sans se perdre dans de petits calculs, la suspension de tout jugement à l'égard des autres. Derrière chacune de ces exhortations, nous pensons à des événements précis que nous pouvons connaître. Et cela nous fait du bien d'entendre Jésus nous parler de la miséricorde, nous encourager à choisir toujours la miséricorde, nous montrer que la miséricorde est possible et préférable à toute autre attitude. La question immédiate n'est donc pas de savoir si nous en sommes ou non capables, mais plutôt si nous sommes disposés à répondre à l'appel qui vient de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La miséricorde vient de Dieu et elle retourne à Dieu. La miséricorde demeure toujours l'œuvre de Dieu. Nous pouvons devenir miséricordieux, comme Jésus nous le demande, si nous laissons Dieu agir en nous. De la même manière qu'il a fallu du temps au peuple d'Israël en général, aux apôtres en particulier, pour discerner le sens de la miséricorde divine, pour la connaître et la reconnaître, pour la désirer et finalement pour l'accueillir et pour la vivre, de même, il nous faut du temps et de la patience. Or, Dieu a le temps. Dieu nous accorde le temps nécessaire et il nous offre les étapes dont nous avons besoin pour nous lever et pour répondre à son appel, c'est-à-dire pour nous convertir. Car une vie miséricordieuse se laisse d'abord traverser par une véritable conversion. Il n'est pas naturel d'aimer nos ennemis ou de souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent. Il n'est pas naturel non plus de présenter notre joue à celui qui nous a déjà frappés ou de donner notre tunique à celui qui a pris notre manteau. Ce n'est pas naturel, c'est donc surnaturel. C'est à la hauteur du choix de Dieu et de l'amour qu'il porte à l'humanité tout entière, amour qui l'a conduit jusqu'à la croix, que nous sommes appelés à nous élever. Peut-être ce matin, le dernier mot pourrait-il revenir à M. Guy Coponnet, cet homme rescapé de l'attentat perpétré en l'église Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016, au cours duquel, comme vous savez, fut tué le père Jacques Hamel. Cette semaine, vous l'avez peut-être suivi, a été ouvert le procès des complices de cette attaque. Arrivé à la barre du tribunal, Guy Coponnet a délivré un témoignage de foi bouleversant qui a conduit l'un des accusés à formuler une demande de pardon. En sortant de l'audience, M. Coponnet prononça ces quelques mots. « Ce matin, nous n'avons pas perdu notre temps. Vous avez raison, cher monsieur, on ne perd jamais son temps à rechercher le chemin de la miséricorde. Nul ne sait à l'avance jusqu'où il sera conduit, mais on ne perd pas son temps quand on essaie d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Amen. »